Quel monde vivons-nous? C'était l'expression avec laquelle j'avais introduit les messages précédents, et il y avait le premier qui nous rappelait que l'homme et la femme sont de Dieu. Création de la famille, on a vu la semaine dernière, ce beau mariage qui nous pointait vers le mariage encore plus beau et encore plus grand où les hommes sont conviés, les noces de l'agneau dans le ciel où nous pouvons participer en tant que membres de l'Église de Christ. Dans quel monde vivons-nous? Je vais souligner ce matin l'autorité qui n'est pas respectée. Chacun le conteste, le constate, et chacun se trouve bien impuissant. Je parle au niveau sociétal, je parle au niveau de ce qu'on entend, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans les médias, il y a un vrai problème. Chacun revendique son insoumission, son droit de dire et de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et le monde est devenu dangereux et l'avenir est sombre pour beaucoup de nos concitoyens. La Bible révèle l'origine de ce mal, une malheureuse désobéissance de nos premiers parents et qui a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Alors on va voir ce matin le récit. J'ai pas branché le truc. Le récit de ce drame. Alors on va retourner au paradis de Dieu, hein? Un petit peu. Voilà, nous y sommes. Il faudrait que je me mette un peu sur le côté, ce serait mieux, sans doute. Le paradis de Dieu est la première alliance. J'ai pas parlé d'alliance jusqu'à présent, mais c'est une alliance que on peut voir là, entre l'homme, la femme et Dieu dans ce paradis. On avait terminé par ce verset. Ils étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Et si vous faites des balades dans la nature au mois de juin, moi j'aime bien le mois de juin, c'est mon mois préféré parce que ça sent bon, il y a le parfum des fleurs. Quand on est sur l'Écosse, c'est formidable. Et puis voilà, c'est beau, c'est agréable, c'est doux, le soleil est là. Et si on se sent en paix, on se sent reposé. Mais le paradis était bien plus que ça, il était sécurisant. Il n'y avait que de bonnes choses. Il y avait de l'abondance, de la joie. Ah oui, il faut distribuer les... Voilà. Là, tu peux distribuer ceux qui ont des feuilles. Il y avait de la gaieté, il n'y avait pas de mal, pas de douleur, pas de peur, pas d'incertitude. Un endroit où l'on a de l'utilité, un endroit où l'activité ne nous fatigue pas, un endroit où l'on n'est pas tout seul, mais accompagné, et un endroit où on a la présence de Dieu, principalement. L'Éternel Dieu était dit au chapitre 9, l'Éternel Dieu avait fait pousser un arbre qui poussait l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 9. Versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Tu mourras, c'est certain. Deux arbres qui sont incontournables. Moi, j'ai compris qu'ils étaient au milieu du jardin. On ne pouvait pas passer à côté de l'arbre de la vie sans passer à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un seul des deux était interdit à l'homme. Alors le code pénal à ce moment-là était vraiment tout petit, hein. Ça tenait en une phrase, c'était formidable. Pas besoin d'une encyclopédie à apprendre toutes les lois. Non, il n'y en avait qu'une. Un arbre qui était interdit. Il s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est quoi cette connaissance du bien et du mal? La Bible traduit, si vous avez déjà cette traduction, si vous l'avez lue, l'arbre de la détermination du bien et du mal. Et Henri Blocher, qui est un éminent théologien et évangélique, donc, et de plus, il est français, il enseigne qu'il s'agit de savoir décider ce qui est bien et mal. Dans le langage de tous les jours, on dirait c'est de faire la loi. Voilà ce qu'était la connaissance du bien et du mal, et voilà ce qui était interdit à l'homme de faire la loi. Alors on regardera tout ça en détail mercredi prochain, Dieu voulant, pendant l'étude, on aura là une bonne matière à méditer. Faire la loi, et on va voir la façon dramatique dont cela s'est déployé, la rupture de ce commandement la semaine prochaine. Ça prend des proportions dramatiques. En tout cas, jusqu'à présent, l'humanité, elle fait et elle défait les lois selon son bon plaisir. Chacun prend de plus la liberté d'évaluer les lois, d'apprécier ce qu'il souhaite y obéir ou pas. Chacun sanctionne et punit selon ce qu'il décide aussi. Faire la loi est le vol d'une prérogative de Dieu. Cette prérogative est incontestée dans tout l'univers. Et cela nous distingue, nous, les humains, de façon un peu horrible, je dois dire, du reste de toute la création visible qui est soumise et qui se soumet sans difficulté aux lois de Dieu. Et jusqu'à présent, cela a été ainsi. La connaissance du bien et du mal. Dieu avait posé le cadre d'une alliance. Ces deux arbres étaient un rappel. Qui est Dieu? Celui qui est le créateur qui donne la vie. Qui est l'homme et la femme? Une créature qui reçoit tout de Dieu, y compris des limites qui lui sont posées. Cela rappelle que l'homme a le choix. À ce moment-là, tout au moins, il avait le choix d'obéir ou de désobéir. Mais il lui est donné d'obéir s'il ne voulait pas mourir. Sa liberté est entière, mais elle entre dans un cadre qu'il doit respecter. Une première alliance. Dieu a donné à l'homme et à la femme une activité. Cultiver, servir, garder le jardin de Dieu. Et Dieu s'engageait à pourvoir au paradis. Et l'homme s'engageait à obéir dans le détail, accepter que certaines choses lui soient inaccessibles. Sa domination s'arrête à la création telle que Dieu l'avait définie pour lui, sa domination sur les animaux. Et Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Tout allait bien. Tout allait bien. L'arbre était interdit. Ni l'homme, ni la femme ne lui prêtaient attention. C'était le bonheur parfait. C'était le paradis. Hélas, c'est la suite du texte, on l'a lu. Est-ce qu'on l'a lu? On a lu le texte? C'est une erreur. On va le lire. On va le lire. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des arbres des fruits du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, absolument pas, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'homme, que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, s'enfirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin, loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, t'as révélé que tu étais nu. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre du jardin dont je t'avais interdit de manger ? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit. Et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a trompé. J'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Parmi tout le bétail, tous les animaux sauvages, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras ou tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et as mangé du fruit auquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi, à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces, des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et cela jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Verset 20. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit les habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc l'homme et la femme ont désobéi. Voici les faits. Le serpent met en doute la parole de Dieu. Le serpent met en doute la parole de Dieu. Il affirme que Dieu a menti. Il suggère que Dieu cache quelque chose aux humains. Et le serpent déclare qu'il est possible d'être comme Dieu. Et la femme constate que le fruit est attrayant, comestible, précieux pour le savoir. Je pense que ceci est là pour qu'on ne puisse pas penser que, ben voilà, la femme, elle a fait une bêtise, elle a fait ça par bêtise. Non, elle avait réfléchi, elle avait regardé. Mais l'intelligence ne met pas à l'abri de la désobéissance. Elle mange du fruit et elle en donne à son mari. Et son mari, l'homme, en mange aussi. Aussitôt, leurs yeux s'ouvrent et ils se voient alors nus et ils se font des pailles. Les faits sont là. Moi, je voudrais faire un commentaire en disant qu'il y a là un renversement de hiérarchie. La femme était en position de domination sur les animaux et, en quelque sorte, c'était pas le serpent qui devait écouter, c'était le serpent qui devait écouter ce que la femme disait et non pas l'inverse. Ce ne devait pas être la femme qui suive les instructions que lui donnait le serpent. L'homme lui-même a reçu de Dieu l'interdiction de manger de l'arbre avant que la femme soit créée. Et l'homme, il choisit d'écouter la femme plutôt que d'écouter Dieu. Et lui aussi, il fait un inversement de hiérarchie. Et le résultat, c'est que la parole du serpent, qui est normalement tout en bas, prend le dessus sur la parole de Dieu, qui est tout en haut. Un renversement de la hiérarchie. Voilà ce qu'a fait le serpent. Le miroir aux alouettes, c'est un piège qui est utilisé depuis très longtemps pour attraper les oiseaux, pour attraper les alouettes. Elles volent dans le ciel comme ça, les passereaux, on les voit tournoyer. Et puis on met des choses qui brillent, et puis ils arrêtent de tournoyer, et puis ils descendent. Et là, le chasseur les tue. C'est un piège que d'être attiré par ce qui brille. Et après avoir mis en doute la parole de Dieu, le serpent a fait miroiter à la femme qu'il pouvait devenir comme Dieu. Il suffisait pour cela de désobéir. Et c'est ce que a fait l'homme. Là, la femme a relayé le miroitement à l'homme et il a désobéi à son tour. Et à ce moment-là, telle l'alouette, l'homme s'est fait prendre. Il est devant une terrible déconvenue. Une terrible déconvenue. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrent, dit le texte. Et ils croyaient devenir comme Dieu et ils se voient nus, vulnérables au possible. Et les hommes sont les plus vulnérables des créations. Ils croyaient accéder à une connaissance supérieure et ils découvrent maintenant qu'ils ont des choses à se cacher l'un à l'autre. Ils cachent les choses. Ils se sont fait des caches-sexes. Monsieur Blocher a fait remarquer que l'organe sexuel est un de ceux que les hommes, les humains, ont le plus de mal à maîtriser. Et ils croyaient devenir tel Dieu tout-puissant, et ils se retrouvent incapables de se contrôler eux-mêmes, de contrôler leur corps. Une terrible déconvenue. Le face-à-face avec Dieu est inévitable. À la joie de la communion avec Dieu succède la peur de Dieu. On connaît tous cela. Quand on est enfant, des fois on désobéit à papa et à maman. Et là, on n'est pas tranquille. On évite de croiser leur regard. On a peur d'être découvert. Quand on est grand, des fois, voilà, on fait des infractions et il se trouve que là, il y a les gendarmes sur la route. Aïe, aïe, aïe. On a peur des gendarmes. Est-ce que j'ai pas fait quelque chose de travers? Si j'ai fait quelque chose de travers, et les gendarmes, eux, ils voient tout de leur voiture. C'est les grands spécialistes. Et si déjà les gendarmes voient nos infractions, à combien plus Dieu les voit-il? Il est impossible aux hommes de se dérober à la voix de Dieu cependant. Où es-tu? Demande Dieu. Je suis là. Répond l'homme misérable, caché au milieu des branches. Alors commence une enquête judiciaire. Dieu va mener l'enquête. Et l'homme et la femme doivent répondre, rendre compte à Dieu, chacun, individuellement et personnellement. Dieu s'adresse d'abord à l'homme, car c'est à lui que le commandement au sujet de l'arbre a été donné. Dieu sait tout, mais il est important qu'on verbalise, les choses. Et Dieu ici s'en tient au fait, il mène l'enquête, il est très factuel. Mais il se passe une chose terrible. L'homme accuse sa femme. Il accuse Dieu aussi en même temps. C'est celui qui a mis, Dieu a mis sa femme à côté de lui. C'est elle qui lui a fait manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est fini. Le temps où elle le faisait chanter de joie. Et la femme de son côté accuse le serpent. L'homme et la femme ont été solidaires dans la désobéissance. Ils sont parfaitement co-coupables. On voit quand même qu'ils ne mentent pas là. Ils disent, oui, j'ai mangé. J'ai mangé de l'arbre. Le plaidé coupable est la meilleure des solutions. On le sait tous. Même aujourd'hui, jusque devant la justice, si on plaide coupable, c'est mieux. C'est la seule chose à faire quand on a fauté. Et quant aux circonstances atténuantes qu'on pourrait avoir, Dieu les connaît parfaitement. C'est pas la peine de s'embêter avec ça. Ce qu'il entend, ce qu'il attend, c'est d'avouer, de dire, ouais, j'ai péché. En tout cas, Dieu est offensé. Le chapitre 1 nous dit que l'homme et la femme avaient été créés à l'image de Dieu et ils étaient tous deux de Dieu. Quelle offense a été faite à l'homme que son image aux yeux de toute la création soit salie, laide et défigurée. Le désir de l'homme et de la femme de vouloir être comme Dieu est une gifle donnée au Dieu créateur, qui leur avait donné la vie, qui avait pourvu à leur bonheur et qui les visitait tous les soirs. Un Dieu offensé. Le jugement doit tomber. Il était différencié. Je ne vais pas m'attarder sur le serpent. La femme voit ses souffrances augmenter dans son domaine de compétences propres, qui est de porter la vie, de mettre au monde la vie. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi, ajoute-t-il. Avant, il n'y avait pas d'incompréhension, il n'y avait pas de suspicion, il n'y avait pas de mésentente, de conflit entre l'homme et la femme. Leur relation était parfaite, mais là, on voit que tout est différent. Maintenant, l'arrivée du péché dans leur vie va changer cela. Toutefois, Dieu précise que l'homme va conserver son leadership. Si Dieu avait déclaré l'égalité à ce moment-là de l'homme et de la femme, s'il n'avait pas mis ce leadership-là, est-ce que ce ne serait pas mieux? Mais comment auraient-ils pu surmonter leurs désaccords, qui sont bien réels, leurs conflits qui existent? Et comment dans les tempêtes de la vie rameraient-ils dans la même direction? S'il y a deux capitaines dans un navire, s'il y a deux généraux, pour conduire une bataille, n'est-ce pas inquiétant pour tous? Si chacun s'occupe de tout et est responsable de tout, comment fonctionner concrètement? L'homme, quant à lui, voit ses souffrances augmenter dans son domaine de compétences propres, qui est d'entretenir et protéger la vie. La terre a été maudite à cause de lui. À cause de lui. C'est un petit peu si Dieu avait rabaissé toute la création au niveau de l'homme. Au niveau de l'homme pécheur. En résumé, Dieu a voulu des contribution, des responsabilités différenciées pour l'homme et pour la femme. Il a voulu les hommes en position de leadership et il a voulu que chacun lui rende compte personnellement. Il y a un point sur lequel je voudrais m'attarder. Il y a ce petit mot, puisque tu as écouté ta femme. Ah, là on est en complète contre-culture. Est-ce une mauvaise chose d'écouter sa femme? A priori non, puisqu'elle est une aide, un vis-à-vis à l'homme. Donc il était bien là pour l'écouter. Et la suite de la phrase est nécessaire à lire et à entendre, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit auquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Il s'agit donc d'écouter sa femme, sauf quand elle s'oppose à Dieu. À ce moment-là, il ne faut pas le faire. Vous trouverez une très belle illustration de ce principe dans un remake qui a eu lieu entre Abraham et Sarah dans l'affaire d'Agar et Ismaël. C'est un petit peu plus loin, chapitre 16 et 21, 16, 2, 21, 10. En 16, 2, Sarah sait que Dieu l'a rendue servile, stérile. Elle le sait qu'elle est stérile à cause de Dieu, mais elle s'oppose à lui et elle veut un enfant de force, en quelque sorte, par Agar. Elle le défie. Et Abraham sera d'accord. Et cela amènera donc Ismaël et sa lignée qui va s'opposer au fils de la promesse et à sa lignée. Abraham n'aurait pas dû écouter Sarah à ce moment-là. Il n'aurait pas dû le faire. Plus tard, Sarah demande à Abraham de chasser Ismaël. Et Abraham n'est pas d'accord. Mais Dieu lui dit, écoute-la, écoute Sarah. C'est elle qui a raison. Écoutez Dieu ou écoutez sa femme. C'est le départ du jardin. L'homme et la femme ont plaidé coupables et ont accepté le jugement de Dieu. Ils ont péché, il y a des conséquences qu'il va falloir assumer. Et nous aussi, en tant que fils et filles de ce premier couple, une petite arrière, descendants de ce premier couple, le salaire du péché, c'est la mort. Écrira plus tard l'apôtre Paul, jusqu'à présent. Mais il ajoute, le salaire du péché, c'est la mort, mais la grâce de Dieu est en Jésus-Christ. J'ai un trou de mémoire, vous compléterez.
Et le don gratuit de Dieu, c'est
la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, merci. Une petite remarque avant de partir sur ce verset 20. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Moi, je me remets un petit peu à leur place. Là, j'essaye de vivre cette situation. Et j'ai un peu le cœur serré quand je pense à Ève et quand elle le voit, le paradis s'éloigner d'elle. Je l'imagine tourner les yeux, le regard en larmes vers Adam et lui dire « Mais pourquoi tu m'as écouté ? Pourquoi tu m'as écouté ?» Je l'imagine aussi entendre Adam l'accuser devant Dieu. C'est elle, c'est elle. Grâce à Dieu, la parole de Dieu nous laisse une bonne habitude qu'a eu Adam ensuite. Un geste de consolation envers son épouse malheureuse. Adam appelle sa femme Ève, c'est-à-dire vie, car elle devait être la mère de tous les vivants. Adam lui donne ce petit nom, Ève. Ce sera son prénom. Et ce nom est comme un défi lancé à celui qui voulait sa mort, le serpent. Le triomphe du serpent n'est que temporaire. En attendant le jour de Jésus-Christ, la femme portera et mettra au monde la vie avant de mourir elle-même. Adam console sa femme. Ensuite, Dieu les revêt. Il intervient d'une façon miséricordieuse pour procurer des vêtements qui soient plus adaptés que les feuilles, des vêtements de peau. Et ça signifie que ça va durer. Le fait qu'il ne soit plus innocent. L'innocence est définitivement perdue pour l'humanité. Jusqu'à présent, on porte tous des vêtements. On ne la retrouvera jamais, cette innocence du jardin d'Adam. On peut noter aussi que ce vêtement en peau provenait de la mort d'un animal innocent. Il faut partir. Adam et Ève sont définitivement poussés dehors. Ils ne pourront plus jamais revenir en arrière, retrouver l'innocence. Et cette idée de vouloir faire la loi sera désormais attachée à la nature humaine, à celle d'Adam. Ils ne retrouveront plus jamais le beau jardin perdu par leur faute. Et de plus, ils vont devenir dangereux. Dangereux pour les autres, dangereux l'un pour l'autre, dangereux pour eux-mêmes. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. À ce moment-là, il faut quand même regarder, porter nos regards vers la nouvelle alliance, puisque ce texte nous y invite. Qu'est-ce que la nouvelle alliance? C'est une obéissance de cœur. Retrouver l'obéissance à Dieu. Jérémie l'a prophétisé ainsi. En Jérémie 31, 31, si vous retenez ça, c'est l'adresse. Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, son frère, en disant, vous devez connaître l'Éternel. Car tous le connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le ciel, le soleil comme lumière du jour, celui qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être la lumière dans la nuit, qui agite la mer, celui qui fait gronder les vagues, celui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Un regard vers une alliance, la dernière des alliances, qu'on appelle aussi la nouvelle alliance. Justice sera faite. Ils n'avaient pas d'allant. Désolé, c'est pas grave. Justice sera faite concernant le méchant serpent qui est à la racine de tout ce mal. Dieu a dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras ou tu lui écraseras le talon. L'inimitié entre le serpent et les humains, et la femme en particulier est réelle, et on comprend pourquoi. De remarque, le mot postérité, qui est le mot semence, s'applique généralement à un homme, c'est lui qui a eu, c'est la semence d'un homme, la postérité. Et ce n'est pas à la postérité, ce n'est pas la postérité de la femme qui écrasera la postérité du serpent, mais la postérité de la femme écrasera ce serpent, ce serpent-là particulier, celui du jardin de Éden. Celle-ci t'écrasera la tête à toi. Cela pointe vers Jésus-Christ, qui naîtra d'une vierge et vaincra Satan, appelé le serpent ancien, en Apocalypse 22. Il le vaincra, il l'écrasera à la croix de Golgotha. Il y a aussi le vêtement de la justice, le vêtement de peau pointe le vêtement de la justice, l'agneau de Dieu. cet habit couvrira entièrement le péché de ceux qui le revêtiront. Il sera donné à ceux qui entrent dans cette nouvelle alliance, la foi en Jésus-Christ, le Messie, comme seul intermédiaire, comme seul salut, comme seule source de pardon, comme seul rédempteur pour l'humanité et pour chacun personnellement. L'arbre de vie sera retrouvé. Dieu n'a pas détruit l'arbre de vie, vous avez remarqué ? Il l'a rendu simplement inaccessible. Et un jour, et les hommes et les femmes de la nouvelle alliance seront introduits dans la Jérusalem céleste. Et là, est-il écrit, ils retrouveront au centre de cette ville l'arbre de vie. La perte n'est pas définitive. Il y a une alliance. Une autre alliance que Dieu fera, un autre engagement que Dieu prendra. Alors, les applications, obéir à Dieu. J'ai noté obéir à Dieu, bien sûr. C'est l'application de ce texte, c'est il faut obéir à Dieu. C'est le grand enseignement. L'obéissance est un fil rouge qui traverse toute la Bible, du début à la fin, du premier au dernier livre. Un jour arrivera où chacun devra rendre compte à Dieu pour lui-même, personnellement. C'est certain. Osée chapitre 6, verset 3, nous dit que cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Obéir à Dieu. Et quand on a péché, ne pas fuir Dieu, mais plaider coupable, accepter son jugement, dans la mesure du possible, réparer. Accepter la différenciation que l'homme a voulu entre l'homme et la femme. Que Dieu a voulu, pardon, entre l'homme et la femme. Il y a une différenciation. Et dans notre culture, il y a une quête de l'égalité absolue entre l'homme et la femme. Et cette quête de l'égalité absolue amène à des conflits insolubles entre l'homme et la femme. Il y a trois victimes que je vois. Les premières victimes sont les enfants. Ils n'ont plus un modèle d'autorité structurée et sécurisante. Ils se trouvent livrés à eux-mêmes, seuls, face à cette tendance qui est en eux à faire la loi. Les femmes qui, en luttant pour leur égalité, elles le perdent du même coup, la protection et l'esprit de sacrifice bienveillant qui animait les hommes à leur égard. Du moins, sur le papier commun. Et les hommes, eux, ils sont contraints quelque part à s'émasculer pour plaire à leurs femmes. La quête de l'égalité absolue entre les hommes et les femmes n'est pas le combat de Dieu. N'est pas ce que Dieu voulait. Et j'espère qu'on l'a bien compris ce matin. Accepter la différenciation que Dieu a voulu entre l'homme et la femme. Alors une implication pour les hommes, ce serait celle d'assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités premièrement devant Dieu. C'est la première des responsabilités que les hommes et les femmes aussi ont. Les femmes aussi. La responsabilité devant Dieu, c'est devant lui que nous comparaîtrons un jour pour répondre par rapport à nous-mêmes et pas par rapport aux autres. Et la question à laquelle nous devons trouver une réponse, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Et Morel l'a évoqué tout à l'heure. Notre culture nous apprend que le leadership se gagne à la force des poings, en jouant des coudes et des épaules. C'est un graal dont on doit s'emparer, être le chef. Mais la Bible nous enseigne que ce leadership se reçoit de Dieu, qu'il est au service de Dieu et de son prochain. Le leadership se reçoit de Dieu et il est au service de Dieu et de son prochain. Il y a donc un leadership que l'homme n'a pas choisi, mais qu'il doit assumer, et bien souvent, cela se fera dans la souffrance, dans les larmes, dans la sueur, à se débattre au milieu des épines. Assumer ses responsabilités devant Dieu. Assumer ses responsabilités devant sa femme. L'homme a souvent tendance à se décharger sur son épouse de ce qui relève de sa responsabilité spécifique. Elles sont intelligentes, elles sont compétentes, elles sont merveilleuses, c'est vrai, mais Dieu a demandé à l'homme de lui obéir et de cultiver et servir son jardin, celui de Dieu. Il devait correctement transmettre ses consignes, celles de Dieu, à la femme que Dieu avait donnée pour leur bonheur aux deux, pour leur bonheur aux deux. Et je pense que quand la femme constate que l'homme n'est pas égoïste, mais qu'il cherche et désire sincèrement Dieu, lui être agréable et sa volonté, alors à ce moment-là, elle lui fait confiance. Et elle se sent protégée. Elle se sent protégée de quoi? De cet affreux serpent qui veut sa mort et qui veut la mort de ses enfants. Et quand nous autres, les hommes, avons péché, nous devons plaider coupable devant Dieu, devant notre épouse, et ne pas chercher des excuses ou sortir quelques accusations. Assumer ses responsabilités devant sa femme. Assumer ses responsabilités devant ses enfants. Quand nous avons péché contre notre famille, en lui imposant notre loi, pas celle qui venait de Dieu, mais la nôtre, nous devons plaider coupable devant Dieu et devant nos enfants. Je rappellerai les paroles de Jésus, le chef, qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car mon joug est doux, mon fardeau est léger, et moi-même, je suis doux et humble de cœur. » C'est ainsi qu'est le Seigneur, c'est ainsi que nous devons lui ressembler. Amen. Alors, j'étais tellement heureux tout à l'heure de chanter ce chant qui chante la gloire de Dieu. Qui est donc dans le ciel et semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi. Tu es Adonai Jiré, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rafé, éternel, tu guériras. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, le Dieu de paix pour tous les hommes et toutes les femmes. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui protèges et c'est toi qui nourris. Olam, c'est le Dieu éternel. Elaï, c'est le Dieu qui est vivant qui n'est pas mort. Voilà. Priez si vous voulez, on pourra le chanter ou si vous en avez un autre. Je vois qu'on a 5 minutes. Oui Seigneur, combien nous sommes petits face à ta parole et combien nous sommes nus et honteux devant toi. Nous avons tous péché, nous avons tous transgressé, nous avons tous voulu faire notre loi, imposer nos règles et oublier que c'est toi que nous devons écouter. C'est à toi que nous devons nous soumettre parce que tu nous donnes la vie et parce que nous sommes de toi et pour toi et à toi. Merci pour la façon dont tu nous as créés, de façon si merveilleuse. Merci pour qui nous sommes. Merci pour cette bienveillance dont tu as toujours manifesté envers ta créature et la façon dont tu as que tu sanctionnes le péché pour que nous puissions recevoir un plein pardon. Merci pour Jésus-Christ qui a pris sur lui la sanction ultime qui est l'éternelle séparation avec toi. Il a été obéissant. Il a été ce second Adam qui entraîne avec lui et le chef de file d'hommes, de femmes, d'enfants qui obéissent à Dieu. Merci parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Merci parce que tu l'as souverainement élevé au-dessus de tout nom et nous voulons l'adorer, lui rendre hommage, lui être fidèle, le servir, l'écouter. Merci Seigneur pour ton Église. Merci pour les différentes personnes que nous sommes, les hommes, les femmes, les enfants. Merci parce que nous constituons ton Église et que nous en sommes fiers. Merci pour les frères, les sœurs que tu nous donnes, les enfants que tu nous donnes dans ton Église, les pères et les mères que nous trouvons, que nous y trouvons aussi. Merci parce que tu es celui qui pourvoit à tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.